Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La célébration de la fête du Maolid, le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher, reviendra dans votre journal sur l'importance de cette fête et sur sa signification. Des messages d'amitié interconfessionnelle à l'occasion de Maolid, la fête de la naissance du prophète, est l'occasion d'exprimer des sentiments de fraternité et de se replonger dans l'origine de la foi musulmane. Des mots du père Vincent Feroldi du diocèse de Lyon, il sera l'un de nos invités. Un événement symbolique en Irak, à l'occasion de la fête du Maolid, des chants religieux ont retenti hier soir dans l'emblématique mosquée Al-Nouri de Mossoul. Le 60e anniversaire dimanche de la répression du 17 octobre 1961, regard dans votre journal sur les commémorations en France, mais aussi en Algérie, avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Genève accueille les premières discussions substantielles sur une nouvelle constitution syrienne. Un nouveau drame de l'immigration clandestine au large des côtes tunisiennes. 4 personnes sont mortes, 19 portées disparues, après qu'un bateau qui transportait des candidats à l'exil a chaviré. La police soudanaise a dispersé ce lundi des manifestants pro-armés. Ils étaient rassemblés devant le bureau du Premier ministre. L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell est mort. Il était âgé de 84 ans. La fête du Maolid, elle célèbre la naissance du prophète Mahomet, une célébration au 12e jour du 3e mois du calendrier islamique. Sur l'importance de cette fête et sur sa signification, entretien avec le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Raleb Bencher.
La célébration de la naissance du prophète comme une fête de la nativité islamique est récente dans l'histoire de la tradition religieuse islamique. Récente en ce sens que elle ne date pas ni du temps de l'apostolat du prophète Mohammed, ni dans l'immédiat temps après sa mort. Elle n'est venue petit à petit qu'avec l'expansion de l'Empire et surtout la rencontre avec les communautés chrétiennes, ce que d'aucuns appellent une forme de christianisation de la pratique et des coutumes de la tradition religieuse islamique. D'un côté, on a les chrétiens, toutes confessions confondues, qui donnent une place centrale à Jésus et à sa naissance. Les musulmans, de par leurs contacts, ont agi aussi d'eux-mêmes. Historiquement, les choses se sont présentées plutôt comme ça. Mais en réalité, ce sont davantage les Fatimides, la dynastie Fatimide, et surtout quand ils se sont déplacés de la Tunisie actuelle en Égypte, ce sont eux qui ont fondé la capitale, le Caire, c'est là où il y a eu une sorte de solennité et tout un cérémonial pour célébrer la naissance du prophète. On rapporte qu'un sultan, le sultan d'Erbil a aussi institué cette célébration, et tout comme sous les Mérinides particulièrement, une dynastie dont la capitale est Fès, au Maroc actuel, ces célébrations ont pris une importance considérable. Petit à petit, cela s'est étendu dans toutes les contrées de l'Empire ou des empires. Jusqu'à des dates récentes, avec la salafisation des esprits, la wahhabisation, qui veut revenir sur cette pratique, arguant du fait qu'elle n'a jamais été instituée ni du temps du prophète, et ça c'est normal, parce qu'il n'a jamais dit « je mourrai et vous célébrez après moi » ma date de naissance, et que ses compagnons aussi ne l'ont pas fait. Alors, indépendamment de tout cela, ça devient un temps fort de la liturgie islamique. Les musulmans de par le monde revivent ce que les mystiques appellent la lumière mohammedienne, essayent, dans la mesure du possible, d'incarner tout son enseignement, surtout un enseignement méconnu de nos jours, qui est celui de la miséricorde, lui-même dit « Je ne suis venu au monde où je n'ai été suscité que pour parfaire la noblesse de la vertu » et le Coran dit de lui qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde aux univers, donc au pluriel, au duel ou au pluriel. Donc c'est un temps fort de recueillement, de réflexion, d'intériorité, de prière, mais surtout de méditation et de réflexion sur le comportement prophétique lui-même pour donner la meilleure image et pour que les musulmans soient les dignes ambassadeurs de son enseignement et de sa façon d'être, à un temps où il est décrié par certains parmi les non-musulmans. Donc c'est l'occasion de présenter une biographie et un enseignement véritable. Et puis, c'est aussi pour s'ouvrir à l'altérité confessionnelle, expliquer à d'autres adeptes, d'autres traditions religieuses, dans le dialogue interreligieux, qu'en réactualisant l'enseignement des fondateurs de ces grandes religions que nous connaissons, c'est aussi une manière de contribuer à la solidarité, à la fraternité et à la paix civile.
Vous mettez en lumière l'importance de cette fête dans le domaine du dialogue interreligieux, c'est un élément très important.
Oui, je pense qu'à chaque fois qu'on peut mettre à profit un temps fort d'une pratique religieuse ou d'un temps liturgique, de quelque tradition que ce soit, pour s'ouvrir à autrui, pour s'offrir afin d'accueillir, ce sont toujours des temps bénéfiques qu'il faut savoir saisir et dans un esprit au-delà des mots galvaudés de fraternité universelle.
Et comment cette fête est-elle célébrée ?
Alors ça dépend aussi des régions. Il y a par exemple en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, et le gros de la composante islamique de la nation française est constitué de ces régions-là. Il y a beaucoup de lumière, des bougies un peu partout dans toutes les pièces de l'appartement ou de la maison, des cadeaux pour les enfants. On peut pétarader avec des pétards ou des choses comme ça dans la mesure du possible. Il ne faut pas incommoder le voisinage, bien entendu. Il y a des chants, il y a des prières et surtout des causeries religieuses mettant en exergue l'enseignement prophétique qui, encore une fois, est un enseignement d'amour, de bonté et de miséricorde.
Vous présidez, Raleb Benchar, la Fondation de l'Islam de France, qui est une institution culturelle et non cultuelle. Quel message souhaitez-vous adresser à l'occasion de cette fête ?
Ce sera un message d'amitié et de respect pour tous nos compatriotes et tous nos concitoyens, pour les musulmans en France et de par le monde. C'est de les enjoindre et de les adjurer à être, encore une fois, les meilleurs ambassadeurs de leur propre tradition religieuse, de laisser place à plus d'ouverture, à plus d'amour et de tendresse dans leur cœur, et laisser place surtout à plus de connaissances et de culture.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Benchar, des messages d'amitié interconfessionnelle à l'occasion de cette fête de Maolid, la fête de la naissance du prophète, est l'occasion d'exprimer des sentiments de fraternité et de se replonger dans l'origine de la foi musulmane, nous dit le père Vincent Feroldi du diocèse de Lyon.
J'ai souvenir des années où je vivais au Maroc et que c'était l'occasion en particulier dans l'Atlas marocain à Monde Berbère de temps vraiment de réjouissance, de fête, de visite et de rencontre. Et donc j'espère que en cette semaine, tous mes amis musulmans pourront comme ça en famille et puis avec leurs amis et leurs voisins fêter cette naissance du prophète. Mais c'est finalement l'occasion d'une part d'exprimer aussi des sentiments de fraternité et pas seulement avec ses voisins musulmans mais avec tout le monde. Et je me dis, comme ça, la fête de la naissance du prophète, c'est aussi l'occasion de se replonger dans les origines même de la foi musulmane et puis de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis ainsi et j'irai à toute une communauté d'aller à sa rencontre grâce au message transmis au prophète et que lui-même a transmis à ses compagnons. Voilà donc tant de fêtes, tant d'actions de grâce, puis je pense aussi pour les croyants musulmans, un temps de prière, de se tourner vers Dieu pour lui confier toute leur famille, mais aussi non seulement le devenir de la communauté musulmane, mais je dirais particulièrement en France, tout ce qui peut faire la vie de notre pays, la vie sociale, et on voit que c'est pas toujours facile de vivre ensemble, donc on a besoin de l'aide de Dieu.
Et c'est un message qui a une connotation particulière hein, en cette campagne présidentielle marquée par des thèmes liés notamment à l'identité.
Oui, d'autant, bon, je vis maintenant continuellement sur Lyon et j'ai une responsabilité au niveau de la paroisse de Bron qui, malheureusement, la semaine dernière, c'est la communauté juive qui a été atteinte. Il y a eu des tags sur des bâtiments scolaires injurieux à l'égard de nos amis juifs et on voit bien que dans ces temps un petit peu de préparation à l'élection présidentielle, il y a un peu un affrontement entre certains extrémismes et où la dimension religieuse est mise en avant pour dénoncer et ça c'est pour moi scandaleux et donc c'est très important que notre fraternité humaine mais aussi spirituelle en prenant en compte nos diversités, mais se manifeste. Et donc, la fête du Mavlid, du Mouloud, comme disent d'autres, c'est l'occasion de partager ces moments de joie et de fraternité.
Chaque fête religieuse est une opportunité pour renforcer ce dialogue interreligieux.
On l'a perçu tout clairement depuis 2015-2016, depuis les tragiques attentats. Et c'est important de profiter de ces moments aussi où on peut comme ça s'entreconnaître, permettre de faire découvrir aux autres les fêtes qui sont importantes pour nous. Aujourd'hui, les musulmans peuvent comme ça nous parler du prophète Mohammed, dont on sait que certains dénigrent même la personne même. Bientôt, ça va être pour nous la fête de la Toussaint, puis il y aura la fête de Noël. Les fêtes religieuses sont des moments par excellence où on peut entre autres faire découvrir aux enfants la religion de leurs copains et donc faut se réjouir de ces temps qui sont pour nous vraiment des temps d'ouverture et de fraternité.
Le père Vincent Feroldi du diocèse de Lyon, ancien directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France, un événement symbolique en Irak à l'occasion du Maolid. Des chants religieux ont retenti hier soir dans l'emblématique mosquée Al-Nouri de Mossoul, le premier événement de ce type sur ce site qui avait été ravagé par les terroristes du groupe État islamique. La mosquée et son minaret du XIIe siècle avaient été détruits en juin 2017. La mosquée est en cours de restauration par l'UNESCO et les travaux doivent être terminés d'ici la fin 2023. Première discussion entre pouvoir et opposition sur la constitution en Syrie. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie affirme depuis Genève que les coprésidents du gouvernement et de l'opposition du comité constitutionnel syrien se sont mis d'accord pour lancer le processus de rédaction d'une nouvelle constitution. Un nouveau drame de l'immigration clandestine au large des côtes tunisiennes. 4 personnes sont mortes, 19 portés disparus après qu'un bateau qui les transportait a chaviré. Les victimes sont de nationalité tunisienne. Le 60e anniversaire hier de la répression du 17 octobre 1961. Plusieurs milliers d'Algériens manifestaient à Paris contre le couvre-feu qui leur était imposé par le préfet de police Maurice Papon. Une manifestation dont la répression a fait entre 200 et 300 morts selon les historiens. Emmanuel Macron a, selon un communiqué de l'Élysée, reconnu les faits. Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République, selon les mots de la présidence de la République. Plusieurs maires de Seine-Saint-Denis demandent la reconnaissance d'un crime d'État. Comment cet anniversaire a-t-il été commémoré en Algérie et comment les propos de la présidence française ont-ils été perçus? Question posée à Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
L'Algérie s'est rappelée 60 ans après. Elle s'est toujours rappelée chaque année, mais cette fois-ci d'une manière particulière, puisque il y a eu des commémorations avec la projection parfois de films pour la première fois sur ce qui s'est passé cette nuit du 17 octobre 1961 avec le massacre d'au moins 200 Algériens par la police de Maurice Papin, qui était préfet de police à l'époque. On a rappelé qu'il y a eu des massacres, on a rappelé qu'il y a eu des Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Certains ont parlé du fleuve rouge, puisqu'il y avait du sang d'Algérie, c'est du jamais vu un peu dans l'histoire de l'Europe. Et ça a été rappelé aussi par le président Abdelmadjid Tebboune, qui dans une déclaration publiée par la presse, il a dénoncé les crimes contre l'humanité, il a dénoncé les crimes coloniaux, et il a rappelé que les dossiers de la mémoire et de l'histoire seront traités sans compromission, sans aucun retour en arrière. C'est-à-dire que l'Algérie continue de revendiquer la reconnaissance des crimes coloniaux, la reconnaissance de ce qui s'est passé durant 132 ans d'occupation, pas uniquement durant la guerre de libération nationale. Bon, il y a eu des manifestations, il y a eu aussi une minute du silence qui a été observée vers 11h et sera observée chaque année à la décision du président Tebboune pour se rappeler de cette histoire de le 17 octobre 1961, bien sûr, des appels ont été lancés pour continuer à écrire, à documenter ce qui s'est passé, à chercher les témoignages, d'autant plus qu'en France, cette histoire a été pendant longtemps occultée. On a d'ailleurs annoncé le chiffre de 2 à 3 morts et 60 blessés en 1961, alors que tous les historiens, y compris les historiens européens, considèrent que ce chiffre est faux et qu'il y a eu beaucoup de victimes de la police de Papin qui a exagéré dans sa répression sanglante qui a été couverte politiquement par l'ancien Premier ministre Michel Debré.
Comment les mots du président français ont-ils été perçus en Algérie? Emmanuel Macron, qui a reconnu les faits et qui a dénoncé, selon un communiqué de l'Élysée, les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon, des crimes qualifiés d'inexcusables pour la République.
Les commentaires et les éditoriaux dans la presse, le débat après cette déclaration de Macron, il est vrai que c'est un peu plus courageux par rapport aux anciens présidents. Il n'y avait que François Hollande, en 2012, qui avait parlé d'une répression sanglante, mais sans reconnaître le crime en tant que tel. Là, on sent qu'il y a une évolution, mais quand on parle des crimes inexcusables pour la République, on se demande, on se pose la question, est-ce qu'il y a des crimes excusables pour la République? Et pourquoi le président Macron n'a pas reconnu le crime d'État?
Faisal Medaoui, journaliste à 24 heures Algérie. La police soudanaise a dispersé ce lundi des manifestants pro-armés. Ils étaient rassemblés devant le bureau du Premier ministre Abdallah Hamdok, le chef du gouvernement qui était en réunion d'urgence face à ce qu'il a décrit comme la pire crise du Soudan post-dictature. Les protestataires hostiles au gouvernement Hamdok ont monté des tentes devant le palais présidentiel à Khartoum où siègent les autorités militaro-civiles de transition. La mort de l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell, il était âgé de 84 ans, il est mort de complications liées au Covid-19. Fin de cette édition, un très grand merci pour votre fidélité. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de Suresnes. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.